J'aimerais pouvoir rire aussi ce matin. J'aimerais pouvoir sourire à pleines dents. Et je voudrais vous dire ce matin que avoir un don prophétique, c'est déstabilisant. Et je vois Marceline qui me regarde avec un regard de compréhension. Souvent, c'est avec la mort dans l'âme qu'on doit venir ici sur l'estrade apporter une parole de Dieu. Et quand tu te lèves de ta chaise pour t'approcher de l'estrade, t'as tout d'un coup un tas de voix étrangères qui s'élèvent pour te dire « Arrête, ne va pas !» C'est toi qui penses. C'est toi qui veux réagir. Et ce matin, j'aimerais vous dire que c'est pas Marceline qui a choisi de s'avancer. C'est pas non plus Pauline, c'est pas non plus Alex. C'est cet esprit de vie qui est en eux et qui vibre parce qu'ils ont la responsabilité de jouer le rôle de sentinelle qui avertit. Et ce matin, le Seigneur voudrait prendre le volant. Il voudrait que tu arrêtes pour lâcher prise. Le Seigneur veut absolument contrôler nos vies. Jusqu'à aller à changer ta manière de t'alimenter. Et ce matin, le Seigneur voudrait changer ta manière de te nourrir. Il voudrait que tu laisses le lait pour passer à la nourriture solide. Le Seigneur, ce matin, a un ardent désir que tu quittes l'enfance pour entrer dans la vie mature. Et il voudrait que tu t'inclines pour recevoir la pleine connaissance de sa volonté. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que le Seigneur attend de toi pour cette fin d'année et pour commencer 2018? Et souvent, à chaque fin d'année, c'est nous qui demandons à Dieu des choses. Ce matin, le Seigneur voudrait renverser les rôles. Et il voudrait que ça soit lui qui te demande et qui me demande. Alors toute la question, c'est de savoir si nous voulons laisser le volant à Dieu. Et je voudrais partager ce matin un texte qu'Espoir avait déjà pris pour qu'on puisse se rendre compte qu'en cette fin d'année, le Seigneur a un désir de venir en nous réaffûter la crainte de Dieu. Est-ce que la crainte de Dieu prend la première place dans ma vie? Est-ce qu'elle la prend dans la tienne? Et le grand désir de Dieu pour 2018, c'est de pouvoir voir son Église qui se mette à tendre à ce qui est parfait. Dans notre crainte de Dieu, est-ce que nous avons encore la vision de la perfection chrétienne dans notre vie? Alors, je vais relire le texte que Espoir avait partagé au chapitre 5 du livre des Hébreux, à partir du verset 12 jusqu'à 14, et au passage, je vais accrocher aussi le verset 1er du chapitre 6. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et mal. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Le Seigneur, ce matin, nous place la barre très haut, hein. Si vous voulez le meilleur pour vos enfants, notre Père veut le meilleur pour son Église. Tendre à ce qui est parfait. Et l'auteur, ce matin, il fait un reproche à son Église. Il dit au verset 12, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous rappelle la base de l'Église chrétienne, de la vie chrétienne. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait à la place d'enfin consommer de la nourriture solide. Alors, qu'est-ce que je consomme comme nourriture et qu'est-ce que toi tu consommes comme nourriture? Est-ce que mon pasteur se sent encore contraint à me donner le biberon ou est-ce qu'il prend plaisir à me donner de cette nourriture solide que j'ai besoin pour tendre à ce qui est parfait? Et en méditant ce texte-là, je me suis rendu compte que dans l'Église, il y a une souffrance une souffrance qui nous freine pour ne pas aller de l'avant. Et cette souffrance-là, c'est de ne pas faire l'expérience. L'expérience de la parole de justice. Parce que la réelle vie chrétienne, c'est une expérience, hein. C'est pas seulement avoir des théories et puis on s'arrête. C'est avoir des théories pour mettre en pratique la théorie qu'on reçoit. Et ça m'a beaucoup interpellé. Et je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est concrètement faire l'expérience de la parole de justice? Et j'ai voulu absolument savoir si je faisais l'expérience. Parce qu'avant de le rapporter aux autres, faut d'abord que toi-même, tu fasses l'expérience. Et dans un état de supplication, je disais, Seigneur, je veux savoir. Je veux savoir. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu dans mon esprit Hébreux, chapitre 4, verset 12. Et le Seigneur, dans son amour, a dû me faire une démonstration de ce qu'était l'expérience de la parole de justice. Alors, je vais essayer de vous la donner, comme je l'ai compris. Alors, Hébreux 4, verset 12, et j'ai quand même envie de vous lire le 11. Et quand on prend un verset de la parole de Dieu, et qu'on le sort du chapitre, c'est toujours bien d'y mettre du contexte. Et juste avant de citer le verset 11 et le verset 12, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par trois fois, va dire, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Et le grand danger, quand on entend la parole de Dieu, c'est d'endurcir son cœur. Et puis ce matin, le Seigneur va relever un peu la conséquence de la désobéissance. Et il va y avoir comme un ton suppliant de ce Dieu-là qui va dire au verset 11, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne donne le même exemple de désobéissance. » Et tout de suite après ça, le quart de Dieu va retentir dans les cœurs. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Faire l'expérience de la parole de justice, c'est vivre en nous ce partage-là, cette division-là, cette séparation entre l'âme et l'esprit. Alors l'âme, c'est le siège de la vie naturelle. Et l'esprit, c'est le siège de la vie spirituelle. Et dans ce partage-là, que je vais permettre et que tu vas permettre à ton souverain sacrificateur, Jésus-Christ, de faire, va éveiller notre esprit aux choses d'en haut, et il va nous montrer combien notre âme est peu fiable. Combien notre âme est peu fiable. Et l'homme de tous les jours, qui n'est même pas chrétien, il va aussi parler des états d'âme. Et combien nos états d'âme sont fragiles. Combien nos états d'âme nous freinent devant toute la volonté de Dieu. Et combien notre âme a besoin d'aller se mettre à l'école de Jésus-Christ, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, versets 28, 29 et 30, pour se laisser façonner entre les mains de Jésus. Pour commencer à apprendre l'obéissance dans la douceur et de l'humilité. Et dans ce partage-là, quelque chose de très important va se faire. Et c'est là que le Seigneur va réaffûter notre crainte de Dieu. Et combien de fois n'avons-nous pas été naïfs sur ce point-là? Jusqu'à aller louer Dieu en lui disant, Seigneur, nous te louons parce que tu es un Dieu qui ne nous juge pas. Et ce matin, je dois vous dire de la part de Dieu que nous avons un Dieu qui nous juge. Nous avons un Dieu qui nous juge. Alors, c'est pas un jugement qui va me conduire en enfer, hein. C'est un jugement pour mon plus grand bien, pour favoriser ma sanctification et ma sainteté. Et là, ma crainte de Dieu et la tienne doit aller jusqu'à les croire que si je ne me laisse pas juger maintenant par la parole pour mon plus grand bien et que j'endurcis mon cœur à la voix de Dieu, cette même parole me condamnera plus tard. Si on ne se laisse pas juger maintenant par la parole pour notre plus grand bien, cette même parole nous condamnera plus tard. Alors, qu'est-ce qui me donne le droit ce matin de parler de la sorte? Mais c'est l'autorité des Écritures, hein, qui est en train de presser mon cœur pour que je joue mon rôle de sentinelle pour avertir. Verset 13. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui je devrais rendre compte. Et ce Dieu-là du verset 13 qui nous avertit, c'est encore le même Dieu qui va dire au chapitre 2, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Pasteur Laurent, comment est-ce que je vais faire pour échapper si je néglige cette séparation, cette division, ce partage que mon souverain sacrificateur veut faire au plus profond de mon être? Comment est-ce que je vais faire pour échapper si j'endurcis mon cœur au jugement de la parole sur ma vie? Et ce Dieu-là qui avertit au chapitre 2, verset 3, c'est encore et toujours le même Dieu qui va s'exprimer plus loin au chapitre 10, hein. Versets 26 et 27, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il n'y a rien de pire dans la vie chrétienne que le péché volontaire. Attends. Tu sais que c'est pas bien. Je sais que c'est pas bon. Je sais pertinemment bien que c'est pas conforme avec toute la volonté de Dieu. Et je pêche quand même. Je sais que je ne suis ni froid ni bouillant. Et je continue à être tiède, prenant le risque de me faire vomir par la bouche de Jésus-Christ. Verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors moi je veux bien tomber dans sa main. Hein. Si tout se passe bien avec la division, avec la séparation, avec le partage, que mon souverain sacrificateur veut vraiment faire en moi. Je veux bien tomber dans la main de Dieu si je n'endurcis pas mon cœur au jugement de la parole sur ma vie. Mais si c'est pas le cas, ça va être une chose terrible quand je vais tomber entre les mains du Dieu vivant. Et puis pour terminer, le Dieu du chapitre 10, qui laisse entendre sa voix, c'est encore et toujours le même Dieu qui va dire au chapitre 12, versets 28 et 29, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors nous avons un Dieu d'amour, hein, plein de miséricorde, plein de bonté, lent à la colère. Mais nous avons un Dieu qui est aussi un feu dévorant. Et en cette fin d'année, le Seigneur nous appelle à reconsidérer ce Dieu d'amour-là. Et je vous laisse une dernière parole, et je me la laisse aussi. Épître aux Romains. Chapitre 11. À partir de la deuxième partie du verset 20. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Considérons la bonté, mais aussi la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté-là. Autrement, tu seras aussi retranché. Amen.